Socialement Vôtre, votre chronique du travail social dans l'Ain, proposée par l'ANCEIS. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio B pour une nouvelle émission de Socialement Vôtre, la chronique du travail social dans l'Ain. Alors aujourd'hui, on accueille en studio deux étudiantes de l'ANCEIS, l'École nationale des solidarités, de l'encadrement et de l'intervention sociale de l'Ain, en formation d'assistante service social, donc Maureen Chevillotte et Caroline Chirol. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Vous êtes en formation d'assistante service social en troisième année. Vous êtes toute proche du diplôme et grâce à votre travail, on va aborder un sujet qui concerne le secteur médico-social. Et quand je dis sujet, je devrais dire un outil, car vous allez nous présenter le DUI, le dossier usagé informatisé, qui vise à améliorer le suivi des personnes accompagnées grâce à des systèmes d'information sécurisés dans le respect du secret professionnel. On accueille également Marie Puvillan, qui est formatrice à l'ANCEIS de l'Ain, et Magali Rodet, assistante de service social au Centre psychothérapique de l'Ain, ancienne étudiante qui a consacré son mémoire à la dématérialisation dans les services publics. Je vais laisser la parole à Marie Puvillan, qui va animer cet échange.
Bonjour à toutes et merci d'être présente. En introduction, donc, toutes les administrations ont des dossiers nous concernant. Nous connaissons par exemple Mon Espace Santé, l'ancien dossier médical partagé qui trace notre parcours de soins. On connaît moins le dossier usagé informatisé utilisé par les établissements sociaux et médico-sociaux. Est-ce que l'une d'entre vous peut nous en dire plus ? Qu'est-ce que ce DUI ?
Alors, dans un premier temps, je vais être obligée de faire un rappel concernant le dossier unique de l'usager. En fait, le dossier a toujours existé. Les travailleurs sociaux ont toujours consigné les données relatives aux personnes accompagnées dans des dossiers papier, des notes. Néanmoins, en 92, la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, comme on l'appelle, les acronymes, ça nous connaît dans le milieu social, légitime cet outil en le dénommant comme un document administratif de type nominatif. Donc là, déjà, il y a déjà une structuration du dossier, mais propre à l'usager. Ensuite, l'Agence nationale des assistantes sociales, l'ANAS, lui donne une définition. Le dossier social est la mémoire d'un service sur la situation administrative et sociale d'une personne prise en charge par une assistante sociale. En fait, il est la mémoire des interventions de l'assistante sociale. Ensuite, avec l'apparition de l'informatique au sein des institutions, on assiste à la mise en place d'une numérisation du dossier unique de l'usager, donc le dossier unique informatisé DUI, notamment lié à la dématérialisation des données, et on voit le terme dit administration apparaître.
Oui, alors le papier disparaît, est amené à disparaître hein, à l'ère du tout numérique. À quel besoin répond la création et l'informatisation de ce dossier ?
Alors en fait, le dossier usager informatisé, il permet de répondre à une demande institutionnelle et il est dans l'ère du temps, en favorisant une continuité des services, notamment lorsque des pros sont absents ou lors de turnover. Et de plus, le dossier usager informatisé, il permet en fait la création d'un espace de travail commun afin de rassembler toutes les données à un même endroit tout en garantissant aux intervenants un accès permanent, c'est-à-dire une disponibilité 24 heures sur 24 et sécurisée. Pour finir, la mise en place de l'informatisation du dossier unique, elle permet l'autorisation en fait de l'extraction des données au vu d'établir des statistiques ayant pour objectif la réalisation d'études territoriales.
Un cadre légal est donc venu conforter ce dossier usagé informatisé. Cela pose la question de la mutualisation des données. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on retrouve concrètement comme pièce dans ce dossier ?
Alors en fait, déjà, on peut remarquer une similitude dans le contenu des dossiers uniques papier et informatisés. Et il est important de savoir que ces données qu'on regroupe sont différentes en fonction du cadre d'intervention des établissements. En effet, tout dépend du type de prise en charge de l'usager et des éléments nécessaires pour permettre le suivi. Mais globalement, on peut catégoriser les informations en différents niveaux. Le premier volet administratif qui comprend par exemple l'état civil, les contrats et tous les documents recueillis lors de la première rencontre. Et le deuxième volet qui lui est plus technique, celui-ci rassemble les comptes rendus, les synthèses de réunions. Il peut y avoir une partie sur les partenaires mobilisés dans la situation. Et pour finir, globalement, on retrouve les éléments sur le parcours de l'usager qui peuvent être scolaires, de soins ou encore récits de vie. Les informations contenues dans ce dossier social, qu'ils soient informatisés ou papier, doivent respecter une forme de neutralité qui permet en fait à la personne de protéger la sphère de sa vie privée en conséquence, et toutes les informations en lien avec le suivi ne doivent pas apparaître dans le dossier. C'est à nous, travailleurs sociaux, de veiller à ce que l'information soit valide et connue de la personne concernée, mais aussi non stigmatisante.
Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire qui et comment a-t-on accès à ce dossier, et en premier lieu la personne elle-même qui est concernée ?
Oui, alors effectivement, la personne elle-même peut consulter son dossier. Néanmoins, il va falloir qu'elle fasse une demande écrite à l'administration concernée. Donc cette administration a un délai d'un mois afin de traiter cette demande. Elle va lui fixer un rendez-vous et la personne pourra venir le consulter. Et uniquement le consulter, en fait. Les copies ne sont pas possibles pour ces dossiers. À la lecture de ce dossier, la personne elle va pouvoir apporter des correctifs. Elle va pouvoir demander à ce que des correctifs soient faits si elle constate une erreur ou une information sur une information le concernant. Elle aura également un droit d'effacement. L'usager peut demander la suppression d'une information dans ses dossiers et aussi un droit d'opposition. Ensuite, il faut quand même savoir que le dossier, s'il n'est pas, il n'a pas une continuité, il n'a pas subi une action, il sera archivé d'ici 5 ans.
Très bien. Donc là, vous venez de nous exposer la théorie sur ce DUI. Vous êtes étudiante et vous allez bientôt passer votre diplôme d'État au terme de ces 3 ans de formation. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce dossier entre la théorie que vous venez de nous exposer et concrètement ce que vous avez pu observer dans la pratique ?
Alors, effectivement, pour en avoir échangé entre étudiantes, on se rend bien compte que sur les terrains, les pratiques diffèrent. Autant certaines administrations sont toutes informatisées, autant il y a encore des lieux où il y a beaucoup de dossiers papier. Ce dossier, quand même, ce qu'on y consigne, nous a quand même interrogés, à savoir véritablement ce qu'on y met et comment on le met. C'est surtout comment on le met pour pas que ça fasse violence à la personne si un jour elle prend connaissance. Et puis, quelquefois, dans des équipes pluridisciplinaires, voilà, qui va consulter le dossier. Et après, donc c'est à chacun des professionnels de juger le contenu qu'il souhaite y apporter, mais avec un code de déontologie quand même à respecter.
Très bien. Je vais donc interroger maintenant Magali, qui est assistante de service social dans un service de psychiatrie. Dans le cadre de vos études, vous avez axé votre mémoire sur la dématérialisation dans les services publics. Pourquoi avoir choisi de développer cette thématique durant votre formation ?
Bonjour à toutes et à tous. J'ai fait ce choix parce que, avant d'être faire la formation pour être assistante sociale, j'ai travaillé en centre social où j'accompagnais des bénévoles et des personnes dans des ateliers numériques, et où j'ai été confrontée à des anciens qui étaient complètement perdus par l'outil et qui avaient peur de la souris, par exemple. Et puis ensuite, en stage, j'ai vu des différences importantes dans les pratiques de mes tutrices et qui, comme vous, à l'époque, m'ont interrogée. Et j'ai eu envie d'aller voir plus loin pour mieux comprendre ce qui se jouait dans la dématérialisation.
Très bien. Maintenant que vous êtes professionnelle depuis plusieurs années, avec le recul, que pouvez-vous nous dire des enjeux, aussi bien pour les professionnels que pour la personne qui est accompagnée ?
Alors, par rapport au dossier informatique, je me dis que déjà, l'enjeu pour l'usager, c'est d'en avoir connaissance. parce que je pense que tous les usagers ne sont pas au courant qu'on prend des notes et qu'ils peuvent y avoir accès. Et pour les professionnels, c'est peut-être de se questionner toujours sur ce qu'on y met, pourquoi, quel est notre objectif de noter cet élément-là dans le dossier. On peut le faire seul, comme vous le disiez, mais je pense qu'aussi ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le faire avec les collègues assistantes sociales, pour avoir une position un peu commune sur l'institution dans laquelle on est. Par exemple, là, je travaille en psychiatrie avec des collègues soignants. Il y a des éléments que j'aurais pu mettre quand je travaillais au conseil départemental sur des éléments de budget, des éléments un peu plus factuels sur du travail social que aujourd'hui je ne reprendrai pas dans un dossier, dans le dossier que j'utilise au travail, parce que mes collègues n'ont pas la formation, ça ne les intéresse pas en fait. Ils ont besoin d'avoir des éléments généraux, mais les éléments plus précis, ça ne les concerne pas finalement. Et puis si je veux faire le lien avec le travail que j'ai fait quand j'étais étudiante sur la dématérialisation des services publics, déjà je voulais faire remarquer que ce n'était pas si vieux, parce qu'on a l'impression que ça a toujours été présent, mais c'est que depuis 2005 que les administrations peuvent être consultées par mail sans y avoir une confirmation papier ultérieure, et qu'elles ont la possibilité de créer un téléservice. Et c'est que depuis 2015 et 2017 plus précisément qu'il y a une véritable objectif de dématérialiser les services publics. Et l'objectif, c'était 2022. Donc finalement, c'est quelque chose qui est assez récent et dont on mesure aujourd'hui progressivement les effets sur les usagers principalement. Et puis du coup, les effets sur les usagers ont un effet sur les professionnels. Pour les usagers, il y a déjà des difficultés d'accès matériel. Il faut avoir le réseau informatique, le réseau Internet pour pouvoir accéder. Et malheureusement, toute la population française n'a pas accès de manière équitable à un réseau. Il y a des zones blanches, des zones grises, etc. Il faut avoir un ordinateur, un outil physique qui permet d'y accéder. Alors aujourd'hui, il y a des réseaux France Service qui ont été développés sur le territoire pour permettre à chacun de pouvoir y accéder. Mais bon, il faut savoir qu'il existe ce réseau, y accéder. Et puis, il y a la notion d'électronisme qui est apparue. Alors, c'est un néologisme avec illettrisme. Mais ce n'est pas seulement ça, en fait. C'est pas, le Larousse l'a défini en 2020. C'est une non-maîtrise des compétences pour l'utilisation des ressources numériques. Et dans cette non-maîtrise, on met en lien les lacunes sur l'utilisation, donc l'outil technique, comment est-ce qu'on utilise un ordinateur, un téléphone intelligent, etc. Et l'usage des contenus, c'est-à-dire qu'on trouve sur Internet, c'est-à-dire le formulaire, comment est-ce qu'on fait un achat. Et ça, c'est des choses qui sont loin d'être évidentes pour chacun. Et par exemple, on a tendance à dire que les jeunes sont très forts en informatique. Alors, ils sont peut-être très forts en utilisation de l'outil, mais est-ce qu'ils sont pour autant capables de remplir un formulaire en ligne? Je ne sais pas. Et puis, une difficulté aussi pour les usagers, c'est la difficulté, voire l'impossibilité pour certaines personnes d'utiliser les services dématérialisés des administrations, que ça soit du fait de leur âge, d'une situation du handicap qui peut être physique ou psychique ou des déficiences, de la non-maîtrise de la langue, alors que ça soit de la langue française ou de l'écrit, parce que si déjà on ne sait pas lire, eh ben on peut encore moins se servir de l'outil informatique. Et aussi, par exemple, des personnes qui sont sous mesure de protection, parce que ce n'est pas forcément très bien prévu par les administrations, avec des personnes qui ont accès à un espace personnel, les curateurs, les mandataires aussi. Et du coup, ça fait des fois des démarches qui sont faites à deux niveaux et qui vont faire un bazar sur les dossiers, administratifs des personnes. Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'administration, elle attend de ses usagers qu'ils s'adaptent à l'outil dématérialisé. Donc, c'est aux usagers de bien remplir, de n'oublier aucun justificatif. On peut se dire qu'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait remplir un CERFA, un dossier administratif papier, joindre quelques justificatifs, mais ne pas tout avoir, et pouvoir les joindre après. Le traitement, il avait déjà commencé quand on avait déjà commencé à remplir. Aujourd'hui, s'il manque un papier, eh ben rien n'est traité quand on traite de manière dématérialisée. Ce qui questionne quand même, quand on fait des demandes de minima sociaux, notamment du RSA, c'est quand même un minimum pour vivre. Et du coup, ces difficultés pour les usagers, ça entraîne une vraie réalité qui est le non-recours d'une partie de la population qui n'entame même pas les démarches parce qu'elles se disent c'est trop compliqué, ou qui arrête parce que ça a été trop difficile, j'ai pas réussi, donc de toute façon, je n'y arriverai pas. Et puis, des difficultés aussi à débloquer des situations quand il manque un justificatif, quand quelquefois il manque un papier et puis ça entraîne toute une chaîne d'impossibilité à faire des démarches. Ou des situations qui sont bloquées parce qu'à un moment, il y a eu une erreur et qu'il faut pouvoir la rétablir, et ce n'est pas toujours évident. Du côté des professionnels, je me dis qu'il y a deux enjeux principaux à mon sens, la formation et l'éthique. La formation parce que c'est des compétences nouvelles qu'on demande de développer pour les professionnels qui accompagnent les usagers des services publics. Donc il y a un savoir à acquérir, et puis il y a aussi un faire savoir à acquérir. C'est presque un nouveau métier. Il faut qu'on sache nous-mêmes comment ça marche, et pour le coup c'est pas toujours évident. Et il faut aussi qu'on sache comment est-ce qu'on peut expliquer à nos usagers, à nos patients, comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est encore moins simple. Et puis au niveau éthique, moi ça m'a beaucoup interrogée quand j'ai fait mon mémoire de fin d'études. Est-ce qu'on fait pour? Est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on laisse faire? Ça c'est une question qui est commune aux formations de travailleurs sociaux. C'est toujours la question, l'objectif des travailleurs sociaux, c'est dans l'émission des assistantes de service social, en tout cas c'est l'autonomie de la personne. Mais si on laisse faire, est-ce qu'on risque pas de créer des ruptures de droit? Si on fait avec, à quel moment on s'arrête, etc. Et puis il y a aussi des différences de pratique des assistantes sociales qui sont liées aux compétences. Si on maîtrise, c'est plus facile d'expliquer que si on ne maîtrise pas. Et puis certaines vont considérer que ce n'est pas de leur mission, elles vont renvoyer vers des partenaires, ce qui pose aussi la question du secret des informations personnelles des personnes qui sont envoyées vers des partenaires qui ne sont pas travailleurs sociaux, même s'ils ont tout à fait des compétences extrêmement intéressantes, mais n'empêche, ce n'est pas des travailleurs sociaux. Et du coup, ça pose aussi une question de différence dans l'égalité des chances et dans l'égalité de traitement et dans l'égalité d'accès aux services publics, qui est quand même une des bases de la démocratie et de notre République française, sans vouloir faire de grandes rhétoriques. Il y a aussi la question des codes personnels. Quand les usagers sont en difficulté, en précarité, quand ils perdent, quand ils oublient régulièrement leurs codes personnels, comment est-ce que nous, en tant qu'assistante sociale, on se positionne? Est-ce qu'on les garde? Alors, on n'a pas le droit. Il y a RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui est issu de l'Europe. Mais il y avait aussi la CNIL, à l'époque, qui était une avancée française, qui dit quand même qu'on n'a pas le droit d'avoir les données personnelles à ce point-là des usagers, parce qu'on n'a pas le droit de faire des démarches à leur place sur les espaces numériques. En même temps, si on ne les a pas et qu'ils sont perdus, ça peut entraîner des ruptures de droits. Alors, il faut toujours jongler. Entre la loi, la réalité concrète et comment est-ce qu'on peut faire pour, dans l'intérêt des personnes qu'on accompagne, être le plus juste. Et puis, comment est-ce qu'on peut accompagner quand nous aussi, on est bloqué? Il y a des fois des gens qui ne rentrent pas dans les cases. Et du coup, comment est-ce qu'on fait sur les sites pour pouvoir débloquer les situations? Et puis du coup, moi, j'ai noté aussi, quand j'ai rédigé le mémoire, et puis concrètement au quotidien, dans mon métier, on a une raréfaction d'un accès à un humain pour échanger sur des situations complexes. Et du coup, les administrations, c'est quand même moins simple que ce que les collègues pouvaient en dire sur les pratiques il y a quelques années. Et comment est-ce qu'on fait pour débloquer des situations quand l'informatique, c'est gentil, mais il y a un moment, il y a besoin de parler à un humain. D'humain à humain, on arrive quand même mieux à débloquer. Après, la dématérialisation, c'est aussi positif. Ça peut être une chance pour certains, c'est moins stigmatisant. On peut le faire de chez soi, personne ne nous voit. C'est accessible à tout moment, même la nuit. On n'a pas besoin de poser un jour de congé pour aller faire une démarche. Et ça, c'est quand même chouette. Moi, je pense qu'un des enjeux principaux, c'est qu'on puisse faire les démarches à la fois papier et à la fois informatiquement, mais sans qu'il y ait une différence de traitement et de délai de traitement énorme entre les deux, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, et qu'on puisse avoir un accès à un humain pour les situations complexes. Et puis, je vous incite à regarder le rapport du défenseur de droits sur la dématérialisation des services publics. Il a été fait pour le premier en 2019 et il a été repris 3 ans après. Ils ont fait un retour sur leur premier rapport en 2022. Et pour le coup, c'est une mine d'informations et je trouve que c'est intéressant.
Eh bien, merci Magali. C'était un témoignage important. Je pense qu'on aimerait avoir plus de temps pour en parler, mais la chronique est pas sans fin. Donc je voulais en tout cas remercier Caroline, Maureen, Magali et Marie, évidemment, pour tous ces éléments de précision qui, je l'espère, vont permettre de décrypter un peu mieux l'activité des travailleurs sociaux sur le terrain. Voilà, c'est la fin de cette émission. On va se retrouver au mois de juin pour une nouvelle émission de Socialement Vôtre. Et puis, si vous n'avez pas eu le temps de nous écouter, tous les podcasts sont sur le site de Radio B. Socialement Vôtre, votre chronique du travail social dans l'Ain, proposée par l'ANSEIS.